I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
What time is it?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 379. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL, la semaine 11. Je suis avec Grégory Richard pour cette émission. Salut Greg.
Salut Raoul et bonjour à tous.
Ça fait longtemps qu'on s'était pas fait une petite émission du jeudi tous les deux.
N'est-ce pas? Bah attends, surtout que c'est une semaine assez excitante avec beaucoup de matchs intéressants. Je suis très heureux. Ouais. Comme toujours, de la faire avec toi.
Mais moi aussi, tu fais bien de le dire, il y a 5 matchs avec des équipes à plus de 6 victoires, donc il va y avoir de la course au play-off. Mais ce n'est pas le thème forcément du débat de ce jeudi, puisque vous le savez, le jeudi c'est le débat, l'affiche de la semaine, les pronos et vos questions. Et le débat du jour, ce sera sur le bas du classement plutôt, pour une fois, comme ça on peut en parler, et on va se demander un petit peu quel sera l'ordre de la draft 2021, pas forcément les choix, ça c'est ton expertise, mais plutôt qui choisira dans quel sens. Pour l'affiche du jour, deux équipes en tête de leur division qui s'affrontent, les Packers et les Colts. Grégory, est-ce que tu es prêt?
Allons-y.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Aussi énergique, c'est le jingle de Kitan, j'adore. Greg, la draft 2021 se dessine déjà un petit peu quand même. Il y a des éléments de réponse. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'était un peu dans l'actu puisqu'il y avait la draft NBA hier pour ceux qui suivaient. Donc la draft 2021 en NFL. Alain m'a conseillé juste avant, figure-toi, un petit site incroyable qui donne en direct où ça en est. Alors je vous le donne à vous aussi, petit tips chez vous. Le site tankathon.com. Je ne sais pas si tu connaissais Greg, mais en tout cas sur tankathon.com. Voilà, moi je découvre. Tout est à jour. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, la situation telle qu'elle est, et ensuite on verra qu'est-ce qu'on pense va changer ou pas. On se dit qu'on en prend combien? On prend les 5 dernières, les 6 dernières, comme le...
Bon, le top, oui, on peut dresser un petit top 5 déjà, je pense, d'emblée, oui.
On peut faire top 5. Alors, on peut même gruger en disant 6 parce que pour l'instant, la 5 et la 6 sont à égalité. Évidemment, les Jets seraient premiers de la draft avec 9 défaites et 0 victoire. Jacksonville est juste devant avec une défaite et 8 victoires. Attention, Jacksonville qui, on va en reparler, mais enfin les Jets en l'occurrence se pourraient, s'il y avait égalité, repasser deuxième puisque Jacksonville a un meilleur, un calendrier plus faible. Washington en 3, Dallas en 4, les Chargers en 5. Ah non. Oui, à deux victoires et 7 défaites comme Washington et Dallas. Et la dernière équipe à 2 victoires et 7 défaites, c'est Houston. Mais Houston, attention, on donnait un choix à Miami. On a revérifié avant, il me semble que c'était l'échange de Larry Mittensill.
Oui, c'est bien ça. Ouais.
Ils avaient ce choix. Donc aujourd'hui,
du coup, c'est ce qui est assez cocasse dans ce que tu nous évoques, c'est que donc on a Chargers 5, Dolphins 6, sachant que c'était plus ou moins le classement inversé l'année dernière lorsqu'ils ont sélectionné respectivement Tagovailoa et Herbert.
Déjà, et surtout, on peut peut-être en dire un mot tout de suite, mais c'est deux équipes qui, oui, ont des besoins précis, mais qui n'ont pas l'air d'être en dèche autant que celles qui peuvent être au-dessus d'elles. Alors évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse des Chargers, mais en l'occurrence, t'as pas besoin d'aller chercher un quarterback tout de suite. Ils peuvent prendre le meilleur joueur disponible à ce moment-là et peut-être essayer de construire sur ce qu'ils ont déjà aujourd'hui.
Oui, bah clairement. De toute façon, les Dolphins, c'est une opportunité de rêve hein, d'avoir exploité vraiment cet échange de la meilleure manière avec Houston, hein, en ayant bien entendu géré en parallèle une reconstruction solide depuis maintenant un an. Les Chargers, oui, malheureusement pour eux, ils sous-performent, mais c'est sûr qu'ils ont quand même éventuellement des armes suffisantes pour pouvoir se remettre dans le bon sens. Après, il y a quand même des postes qui posent question. Bon, c'est pas une prévue draft, hein, mais il y a quand même déjà un peu plus de trous et ça légitime quand même un petit peu plus leur position actuelle dans le top 5.
Alors, revenons en haut de ce classement. Les New York Jets aujourd'hui à 0 victoire et 9 défaites. Est-ce qu'ils peuvent prendre une victoire d'ici la fin de l'année, Grégory? Je voulais évidemment rechercher le calendrier en demandant ça et je ne l'ai pas fait, c'est ma faute. Mais
ils ont les Pats à l'extérieur, ils ont les Dolphins à domicile, ils ont le fameux match contre Cleveland sur lequel on s'était mouillé en se disant que c'était leur probabilité la plus importante de victoire d'ici la fin de la saison.
J'ai l'ordre même si tu veux. C'est vas-y. Chargers, Dolphins, Raiders, Seahawks, Rams, Browns et Patriots.
Ouais, bon, a priori, je les vois pas en prendre plus qu'un en l'occurrence à l'orgueil. Mais oui, non, après, si j'anticipe, je sais pas si tu allais me poser la question, mais je pense quand même qu'ils vont loquer ce premier choix de draft assez largement. En tout cas, c'est l'équipe qui fait la moins bonne impression depuis le début de la saison, même si on les voit un poil plus combatifs, en tout cas de ce qu'on a vu face aux Pats en Monday Night. Mais ouais, j'ai du mal à les voir de par leur calendrier qui reste. Ils jouent quand même, tu le disais, Seahawks et Rams. Ils vont avoir les Raiders et les Browns qui sont en course pour les playoffs. C'est quand même pas le cas. Oui, j'ai oublié les Dolphins, bien entendu. Donc c'est quand même pas le calendrier rêvé pour pouvoir espérer en arracher un en cours de route. Donc ouais, non, je pense que un au maximum, au meilleur des cas. Et voilà, à mon avis, à 99%. Premier choix de draft à la fin de la saison.
Parce que leur grand adversaire pour ce premier choix, ce sont les Jacksonville Jaguars. Eux, il reste à jouer les Steelers, les Browns, les Vikings, les Titans, les Ravens, les Bears et les Colts. Là aussi, c'est un calendrier qui est difficile, mais il y a quand même un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, ils ont déjà une victoire, les Jacksonville Jaguars.
Ouais, ils ont une victoire. Alors après, forcément, de toute façon, je sais pas trop ce qu'on peut espérer. Alors oui, ils peuvent éventuellement descendre au premier choix. On sait pas trop la manière dont ils considèrent leur quarterback actuel, mais je dirais la différence avec les Jets, c'est qu'il leur reste malgré tout. On les a vus déjà beaucoup plus combatifs depuis le début de la saison. Ça, c'est déjà un argument d'importance. Et puis c'est surtout qu'ils ont pas mal de rencontres à domicile. Je veux pas me tromper, mais il me semble qu'il y a sur les 6 matchs, il y en a peut-être 4 qui doivent jouer à la maison.
Et il y en a 3 à l'extérieur, donc il y en a 4 à la maison, ouais.
Ouais, c'est ça, 4 à la maison, 3 à l'extérieur. Ouais, donc il y a déjà un peu plus de probabilité, je trouve. En plus, bon, je vais pas m'acharner sur les Browns, même si la qualité de jeu est pas extraordinaire, mais ils se retrouvent également eux aussi à recevoir Cleveland. Le match à la maison contre Chicago, bon, de par le côté un peu schizophrène qu'on voit des Bears depuis le début de la saison, faut voir. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Voilà, il y a ce premier résultat un peu surprenant face aux Colts en première semaine. Sinon, ils seraient plus ou moins dans la même situation que les Jets à l'heure actuelle. Mais ouais, là, c'est pareil. Je te dirais top 3 quasiment assuré pour moi à l'heure actuelle pour les Jets.
J'ai évoqué tout à l'heure la, ce qu'on appelle en anglais le strength of schedule, qu'on pourrait traduire par la force du calendrier, mais en gros qui est un moyen un peu comme un autre de différencier les équipes sur les résultats des équipes qu'elles ont affrontées, enfin qu'elles affrontent, les résultats que ces équipes-là ont eu l'an dernier. C'est pas très clair, mais vous voyez ce que je veux dire. En l'occurrence, là, les Jets ont un calendrier qui est censé être plus fort. Est-ce que ça veut dire que s'ils sont à égalité à la fin, ils passeraient derrière Jacksonville si les deux équipes ne se sont pas jouées?
Si les Jets ont un calendrier qui est considéré plus fort à la fin de la saison, ce sont les Jacks qui passeraient numéro 1. Enfin, qui en tout cas seraient considérés comme moins bonne équipe, puisque forcément, ils ont affronté une adversité moins conséquente.
Voilà. Donc en plus, il y a peut-être ce petit élément à prendre en compte. Après, est-ce que ça change? Oui, ça change un Trevor Lawrence. Donc évidemment,
Tu peux avoir, même s'il y en a beaucoup qui disent que la lutte entre les deux premiers quarterbacks se joue dans un mouchoir de poche, je ne fais pas partie de cela. Mais en tout cas, oui, bon, 1-2, c'est pas forcément. À l'heure actuelle, c'est peut-être pas ce qui joue le plus dans les esprits, je pense, des general managers.
Et si je te dis que le deuxième en compétition avec Trevor Lawrence, c'est Justin Fields, ça t'impressionne ou pas du tout?
Bah, vu la fréquence à laquelle on en parle, de moins en moins, mais c'est déjà bien que tu l'aies noté.
J'ai découvert ça, c'était écrit sur le site, bien sûr, sur Tankathon, c'est marqué en bas. Remontant un tout petit peu dans ce classement, Washington et Dallas. Alors ça, c'est rigolo parce que, évidemment, ce sont ces deux équipes de la NFC Est. Les Giants ne sont pas très loin, ils sont 8e aujourd'hui. Et il y a quand même un truc qu'on se demandait avant de démarrer l'enregistrement avec le reste de l'équipe. Philadelphie, aujourd'hui, en 3 victoires, 5 défaites et 1 nul, se retrouve à la 19e place. Mmh. Avec ce classement-là, théoriquement, il devrait être plutôt aux alentours de la 8-9e. Et est-ce que pour les quatre équipes de la NFC Est qui aujourd'hui sont encore en course pour aller chercher la tête de la division et donc les playoffs, est-ce que c'est intéressant, tu penses, d'aller faire un premier tour ou de gagner 10 places dans la draft? Quel peut être le calcul à faire ici pour les équipes? Je sais qu'il n'y a pas de tanking en NFL, mais en l'occurrence là, si tu vas juste faire un premier tour pour en prendre 40 alors que tu aurais pu prendre 10 places dans la draft, je ne me rends pas compte.
Oui, mais tu vois, après c'est toujours un petit peu délicat parce que c'est vrai qu'on prend toujours cet exemple-là. Alors c'était pas au niveau de ce qu'on voit cette année dans la NFC Est, on avait déjà fait un débat là-dessus, mais si tu prends l'exemple des Seahawks notamment au début des, alors, je sais plus, c'est 2009 ou 2010, je sais plus l'année.
Il me semble que c'est 2009.
Il me semble que c'est 2009 aussi, ouais. Et l'année où ils font 7-9 et où ils se qualifient un peu à l'arrache en playoff, ça lance quand même, ça établit quand même des fondations solides sur ce qui va venir par la suite. Et c'est vrai que si tu prends des exemples comme les Giants, par exemple, qu'on avait cité, hein, qui sont pas fabuleux depuis le début de la saison, mais en tout cas, on voit quand ils minimisent les pertes de balles, c'est quand même une équipe qui est à prendre au sérieux jusqu'au bout. Là, on peut être dans le cas de figure d'une équipe qui cherche à se reconstruire. Donc, malheureusement, c'est sûr que après, est-ce que ce sera vraiment concluant? Je sais que, par exemple, les Eagles, depuis quelques années, vont en playoff et malheureusement se retrouvent toujours un petit peu entre le spot 17 et 25 à la draft. Et on se rend compte que, au final, ça les aide pas forcément à bien considérer les besoins grandissants qui sont les leurs depuis maintenant quelques mois. Mais voilà, quand tu as une possibilité d'aller en playoff, tu tentes quand même le coup jusqu'au bout parce que tu as toujours la possibilité de créer un upset comme en l'occurrence les Seahawks l'avaient fait et éventuellement de créer une émulation dans ton groupe. Donc c'est un peu, ça peut être un jeu perdant parce qu'en effet tu as aucune garantie. Si tu sors au premier tour, tu pourras te dire ouais c'est con parce que les autres vont avoir plus de chances de se renforcer que nous. Bon, après la draft, il y a tellement d'incertitudes que tu peux te retrouver avec un style aussi, donc
c'est vrai, c'est vrai.
Autant jouer les playoffs jusqu'au bout, surtout dans cette course déclopée qu'on voit actuellement et où on a une chance avec un bilan de 1-8, si je caricature un peu.
C'est vrai. Et du coup, les Chargers et les Dolphins en ont un tout petit peu parlé. Est-ce que, en l'occurrence, Houston et Los Angeles vont se maintenir à cette place-là pour toi? Parce que Houston, on le rappelle, donne son choix à Miami. Ou alors, devant Cincinnati, les Giants, Carolina, Atlanta ou Denver peuvent remonter un peu dans ce classement pour la draft?
Alors honnêtement, Houston, j'ai du mal à y avoir décollé. Il y a quand même beaucoup trop de trous dans cette équipe-là, notamment en défense. On voit que c'est vraiment, ils sont vraiment au fond du trou. Là, ils ont atteint vraiment une fin de cycle assez importante. Et ce, malgré le fait que Romeo Crennel, notamment, ait repris les rênes de l'équipe. On voit qu'il n'y a pas de transformation énormissime en défense. Et bon, malheureusement, voilà, le groupe est à la fois vieillissant et en manque d'expérience, donc c'est un petit peu compliqué, je pense, à colmater d'ici la fin de la saison. Donc je les vois rester dans le top 5 et du coup permettre à Miami d'obtenir cette excellente position. Les Chargers, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours une équipe qui reste dans les matchs, donc ça peut être cette équipe là qui va être en sous-régime tout au long de la saison et puis qui va en arracher 3-4 sur les dernières semaines. On va se dire ah peut-être. On va peut-être alors, même garder peut-être. Anthony Lynn.
Ah oh, non. Au secours.
Donc, les Chargers, j'en suis pas persuadé. J'attends de voir, notamment, ils ont toujours leur réception des Broncos dans quelques semaines. Ou là, en l'occurrence, ils pourraient peut-être passer devant Denver et remettre Denver justement dans une position dans le top 5. On voit qu'il y a quand même également beaucoup de trous du côté de Denver, même s'ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Un Drew Lock qui malheureusement est un peu trop sur courant alternatif, mais ça on en a déjà parlé dans des précédents podcasts. Donc ouais, je te switcherais peut-être Broncos ou Chargers. En l'occurrence, tu disais les Cowboys sont à quelle position?
Les Cowboys sont quatrième aujourd'hui.
Je pense qu'ils vont y rester malgré l'incertitude de la NFC Est. 3-4 pour je pense que 3-4 Dallas Washington, ça peut être à peu près l'équation aussi, donc je te dirais peut-être Denver 5. Atlanta, ils ont pas un calendrier facile non plus, hein. Ils sont un peu mieux ces dernières semaines, mais ils doivent jouer encore deux fois Tampa et New Orleans si ma mémoire ne fait pas défaut.
Je vais te le confirmer dans quelques instants.
En cette semaine, ça fait un peu beaucoup de jouer quatre fois deux équipes de la même division qui se battent pour les playoffs.
C'est exactement ça. Et il y a les Chiefs qui se glissent dans l'équation aussi.
Voilà. En plus, donc même si New Orleans, normalement, il n'y a pas de rubrique ce week-end. Bon, Atlanta n'est pas devenu un crack du jour au lendemain non plus. Donc voilà, il va falloir voir. Ouais. Ils avaient créé la sensation l'année dernière. Mais c'est peut-être une équipe qui peut finir un petit peu en roue libre à peut-être 4-12 et le top 5 serait pas très très loin en l'occurrence.
Ah ouais, là, effectivement, j'avais pas remarqué, mais cette fin de calendrier des Falcons, chez les Saints, ils reçoivent les Raiders puis les Saints. Chez les Chargers, ils reçoivent les Buccaneers et ils vont chez les Chiefs et chez les Buccaneers.
J'ai du mal à te déterminer quel match va être le plus facile à remporter en l'occurrence sur cette série. Il y a peut-être que le match chez les Chargers, paradoxalement, qui est peut-être le plus abordable. En tout cas, le plus équilibré sur le papier. Après, normalement, si les équipes en face sont sérieuses, ça va être un peu compliqué à aller chercher.
C'est là qu'on va voir qui est la vraie équipe choqueuse de la NFL, puisque tout le monde dit que les Chargers sont les Falcons de la AFC. Eh ben, on verra qui sont les vrais Falcons et qui gâchera une avance incroyable dans ce match-là. Ça va être rigolo en semaine 15, je crois, quelque chose comme ça. Ouais.
Oui.
Vous l'avez, votre classement sûr et officiel. Vous pouvez mettre des sous dessus. Les Jets en 1, Jacksonville en 2, Washington, Dallas en 3 et 4, et on va dire les Falcons en 5, et comme ça on sera bon. Ça te va, Grégory?
Oui, pourquoi pas, on peut partir là-dessus. Ouais.
Très bien, nous on part sur l'affiche de la semaine. Et l'affiche de la semaine, on en a choisi une, il fallait en retenir qu'une seule, même s'il y avait beaucoup de belles choses, et on en reparlera au moment des pronos. On a choisi le match entre les Packers à 7 victoires et 2 défaites face aux Colts à 6 victoires et 3 défaites. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 matchs cette semaine avec des équipes à 6 victoires ou plus qui s'affrontent. C'est évidemment une semaine bien chargée. On commence donc par ce Packers contre Colts qui se jouera, j'ai regardé tout à l'heure, je l'ai écrit, je suis comme un idiot, j'ai oublié. Si, dimanche bien sûr, dimanche à 22h25. Grégory, alors c'est des équipes qui s'affrontent pas très souvent hein, puisque c'est interconférence. Est-ce que aujourd'hui ce qu'on voit de la défense des Colts et des Packers, il y en a une des deux qui déjà peut prendre l'ascendant plus facilement sur ce match?
Alors, je sais pas trop si on a eu qui peut prendre plus particulièrement à l'ascendant. Maintenant, c'est vrai que c'est un match assez assez intéressant dans le sens où on voit des Colts qui ont une montée en régime. Donc, si je réponds à moitié à ta question, je te dirais que en tout cas les Colts sont un peu plus en confiance, donc ont peut-être plus moyen de semer doute dans la tête des Packers, qui eux de leur côté, après un gros début de saison. On a l'air un peu d'être dans le dur quand même ces dernières semaines. Il y a eu cette lourde défaite du côté de Tampa, le revers surprise à domicile contre Minnesota. Même la prestation contre Jacksonville, malgré la victoire un peu tardive, n'a pas été fabuleuse.
On est d'accord.
Et on a quand même cette interrogation sur est-ce que Green Bay est pas Je dois pas gérer ce déplacement à Indianapolis avec un peu la boule au ventre, parce qu'en l'occurrence il y a une attaque, il y a une défense en tout cas qui baisse clairement de niveau. Il y a une inaptitude depuis le début de la saison à créer des interceptions. Il y a un run stop, on ne cesse de répéter, qui souffre, hein, et contre Indianapolis, même si on s'évertue à faire beaucoup lancer Philippe Rivers, je pense que ce serait pas un luxe de vraiment bien appuyer sur le jeu au sol en l'occurrence. Et puis il y a une attaque aussi. Alors ça, faudra voir, parce que j'ai la sensation que depuis son retour de blessure, Aaron Jones a peut-être un petit peu plus de mal à être aussi dangereux qu'il pouvait l'être au début de saison, et ça impacte un petit peu forcément une escouade offensive qui certes possède un Aaron Rodgers un peu plus en confiance, mais qui, hormis Davante Adams, a toujours ce problème de cible vraiment fiable sur une large durée. Donc voilà, c'est là où ça va être un duel intéressant, et où en effet Indianapolis a peut-être plus le vent en poupe, surtout après avoir tapé Tennessee à l'extérieur. Donc voilà, peut-être léger ascendant psychologique en tout cas en faveur des Colts.
Alors, tu l'as évoqué, et effectivement, c'était un des points que je voulais creuser avec toi, la non-capacité des Packers à stopper le jeu de course adverse. Est-ce que Nyheim Hines et Jonathan Taylor, selon toi, sont capables de faire… Alors, par rapport au match précédent où Green Bay prend des camions de yards au sol, c'est surtout un mec qui brille. Est-ce que là, à eux deux, ils peuvent, pour dire familièrement, foutre le feu dans la défense des Packers?
Bah, en tout cas, ils ont ce côté assez complémentaire, je trouve, hein, ce fameux one-two punch qu'on aime beaucoup voir chez certaines attaques, et en plus qui colle parfaitement à la NFL moderne. Hein, ce côté, en effet, où on va avoir un Jonathan Taylor un peu plus charbonneur dans les tranchées, et un Nyheim Hines un peu plus inspiré à la réception. Alors après, c'est sûr que si on prend le match à Tennessee, Hines a aussi été extrêmement précieux, principalement au sol. En l'occurrence, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses et qui est encore une fois capable de retirer pas mal de pression des épaules de Philippe Rivers. Voilà, maintenant il faudra faire en sorte que ce soit un peu plus exploité. Là, on a clairement identifié, je pense que c'est un secret pour personne, que le run stop des Packers reste en difficulté, mais il y a toujours ces appels de jeu un petit peu bizarres, et c'est vrai que si les équipes spéciales n'avaient pas sorti notamment Indianapolis d'une mauvaise passe, on dira, sur le terrain des Titans, dans un match que Tennessee a quand même, il me semble, mené pendant une petite partie. Il y a ce gros momentum en deuxième mi-temps, mais il y a malheureusement des appels de jeu qui me semblent toujours un petit peu bizarres. On fait beaucoup plus lancer le ballon qu'en l'occurrence le maintenir à la course. Et ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise chose, même si je parlais du fait qu'il y ait peu d'interceptions du côté des DB des Packers depuis le début de la saison. Je pense que ce serait tout sauf une mauvaise chose de donner un peu plus de responsabilité encore à Hines et à Taylor, qui sont restés respectivement, je crois, à une vingtaine de portées sur le week-end dernier. Un peu plus de travail de leur part pour vraiment tester cette défense de Green Bay et savoir si justement ils ont une opportunité pour jouer les yeux dans les yeux jusqu'au bout avec cette équipe des Packers, en tout cas offensivement parlant.
Moi, j'espère surtout voir la célébration de Nyheim Hines, qui m'impressionne toujours autant, faire ce espèce de salto vrillé là avec tout son matos, c'est quand même incroyable. Parlons un peu quand même de l'attaque des Packers. Tu l'as évoqué, il y a quand même Aaron Rodgers qui, même s'il n'est pas sur les standards de sa saison MVP, fait quand même, en tout cas déjà joue. Par rapport à beaucoup de saisons où il s'est retrouvé blessé un peu, là il est présent et il fait ce qu'il peu avec ce qu'il a. Davante Adams a l'air d'être un peu seul. Maintenant, on voit un petit peu plus de Marquez Valdez-Scantling. Ouh, je suis content, j'ai réussi à le dire. Et voilà, Aaron Jones, pour le coup, lui a manqué un peu. Mais certes, la défense des Colts aujourd'hui est celle qui accorde le moins de yards en NFL, avec 290 en moyenne par match. Mais cette attaque des Packers, elle a quand même moyen de créer des big plays, et avec Aaron Rodgers, tu peux jamais vraiment les enterrer à moins d'avoir 20 points d'avance dans le dernier quart-temps, et encore.
Oui, non, c'est clair, c'est ce qu'on fait. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu sévère, parce que c'est vrai que Valdez-Scantling notamment, alors il y a un touchdown de longue distance qui gonfle un peu les stats, si je peux parler ainsi, mais en tout cas oui, en tout cas il a réussi à apporter un petit peu plus, mais c'est vrai que malheureusement ça reste relativement isolé, et c'est pas ce qui permet à Green Bay d'avoir suffisamment de rythme sur l'ensemble d'une rencontre. Et surtout, enfin, on a la sensation que Green Bay a du mal de plus en plus à commencer ses matchs. Ça, c'est surtout quelque chose d'assez prégnant, je trouve, ces dernières semaines, d'un point de vue offensif. Et après, ouais, tu te retrouves dans une situation où certes, Rodgers est capable en effet de produire dans le jeu aérien, mais ouais, enfin, où forcément c'est peut-être un petit peu compliqué, où on va beaucoup privilégier du jeu profond qui va pas forcément bien fonctionner. Et pourtant, paradoxalement, il y a une bonne ligne offensive, hein, donc il y a beaucoup d'armes. Après, est-ce que c'est parfaitement exploité en termes de play call? Est-ce qu'on n'a pas tendance à se précipiter un petit peu et à se mettre un petit peu en difficulté tout seul dès le début de la rencontre, de par justement aussi les difficultés qu'éprouve la défense à stopper efficacement les attaques adverses? C'est voilà, je pense que c'est vraiment dans la tête actuellement les problèmes du côté de Green Bay, parce que l'effectif est là, même si. Encore une fois, hein, je le dis, ça pourrait être meilleur sur certaines escouades, bien entendu, mais l'effectif est globalement là. Mais il y a encore une fois quelque chose qui s'est un peu cassé ces dernières semaines et qu'il va falloir réussir à remettre en avant. Et contre une équipe d'Indianapolis qui reste extrêmement bien coachée, notamment en défense,
ouais.
Où on s'est vraiment remis dans le bon sens après cette fameuse première semaine un peu fâcheuse contre Jacksonville. On va pas la ressasser chaque semaine, mais voilà, c'est là où on s'aperçoit que c'était une anomalie et où malheureusement pour les Colts, c'est une défaite qui a été un petit peu perdue en cours de route sur une deuxième mi-temps vraiment, vraiment gâchée. Mais là, on se retrouve vraiment avec une équipe pleinement appliquée et c'est vraiment un match où Matt LaFleur va pas devoir se louper en termes de coaching parce qu'en face, un Matt Eberflus est capable de vraiment prendre à défaut et d'exploiter les moindres erreurs qui seront faites de la part d'Aaron Rodgers et de ses coéquipiers. Donc, voilà, face à une équipe comme Jacksonville qui était quand même assez prenable, il y a quand même une interception en cours de route le week-end dernier et encore une fois, je le disais, une première mi-temps notamment extrêmement poussive. Donc voilà, faudrait pas que ça se renouvelle encore une fois contre une autre équipe d'AFC Sud parce que ça pourrait être une troisième défaite cette saison.
Je suis d'accord, effectivement, tu l'as évoqué très vite, le duel de coaching Matt LaFleur versus Frank Reich, c'est assez rigolo. Enfin voilà, l'affiche là de ce côté-là aussi est sympa. Il faut faire un choix, il faut se mouiller. Grégory, qui choisis-tu dans ce match?
Bah écoute, très souvent, je donne des analyses et puis derrière, je dis c'est pas grave, je pense que
ça va quand même
tout,
le faire.
machin, j'aurais quand même tendance à aller du côté d'Indianapolis parce que ouais, non, Green Bay actuellement me rassure pas trop. Ils ont quand même cette capacité à générer un peu plus du pass rush selon moi qu'Indianapolis, et même si les deux O-line sont de bon niveau, il y a quand même Green Bay qui est plus capable d'embêter un Philip Rivers qui, bon, en plus, me paraît quand même un peu moins capable de se débarrasser vite du ballon que Rodgers. Donc, ils ont quand même ça en leur faveur. Après, encore une fois, je le dis d'un point de vue coaching et d'un point de vue mental à l'heure actuelle, Indianapolis me semble surfer sur une meilleure vibe, si je peux parler ainsi. Donc, ouais, Indianapolis pour moi, en l'occurrence, sur ce match.
Tu m'as presque convaincu, mais je vais rester sur les Packers. Je vais rester sur les Packers, en l'occurrence. Il y a quand même ce facteur Aaron Rodgers que je ne peux complètement écarter.
Ouais, Philip Rivers appréciera.
C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été contre Philippe, je l'ai amèrement regretté cette saison. Mais
ah ouais,
que...
vas-y, mets les Packers alors.
Je rêve. Bon, nous on passe à tous les pronos de la semaine 11.
It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. We're gonna go 1-4-3, 1-2-3, work.
Aïe, 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 c'est le bruit qui résonne dans ma tête, cette migraine infernale qui ne cesse de me quitter depuis les résultats des pronostics de la semaine 10. Terrible. C'était une catastrophe, mesdames et messieurs, puisque j'ai fait un tout petit set en score. Et oui, je sais, mais voilà, il faut que je tente des trucs et ça ne marche pas. Donc, petit à petit, je m'enfonce, c'est normal. Camille et Raphaël finissent à 9 et Greg et Alain finissent à 10, soit au total Alain en tête à 104. Raphaël et Greg à, alors j'ai noté 110, mais c'est 102, il me semble, je vais vérifier tout de suite. Et Camille, en tout cas. Voilà, Camille 96, et je ferme la marche à 92. Terrible. Mais attention, rien n'est joué, bien sûr, restez jusqu'au bout. Ça, j'ai l'impression d'être ces mecs qui commentent les matchs où les équipes sont menées 4-0 à la fin, ou 38-0 en football américain à la fin du troisième carton. N'oubliez pas, bien sûr, le quatrième carton sera incroyable. C'est 100, vous avez 100 points, donc 4 points derrière Alain, hein, qui caracole en tête depuis le début de la saison. Alors, cette semaine...
Attention, hein, généralement, les échappés à perdre un peu de jeu en fin d'étape.
C'est tout à fait vrai. Cette semaine 11, qui va commencer ce jeudi soir, si vous nous écoutez jeudi, avec le match retour entre les Cardinals à 6 victoires et 3 défaites et les Seahawks également à 6 victoires et 3 défaites. Ils s'étaient affrontés en semaine 7 et Arizona avait gagné au bout du suspense à 37 à 34. C'est la tête de division qui se joue. Oui, de toute façon, tout le monde joue la tête de division comme en NFCS, tiens. Dans cette conférence-là, en l'occurrence, la dynamique est clairement en faveur des Cardinals, Greg.
Oui, en tout cas de ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est vrai que les deux déplacements des Seahawks n'étaient pas forcément hyper rassurants au premier abord sur le terrain des Bills et des Rams, hein, même si c'est pas deux équipes qui ont été hyper réguliers depuis le début de la saison. Là, en l'occurrence, ils retrouvent en tout cas l'état du Washington face à l'équipe d'Arizona qui en effet a le vent en poupe, mais qui prend quand même beaucoup de points ces dernières semaines, on a tendance à l'oublier. Certes, il y a cette victoire hyper spectaculaire contre les Bills, mais avec une trentaine de points concédés. C'était également le cas contre Miami, et c'était également le cas justement contre oui. Seattle lors de cette fameuse victoire en prolongation. Donc certes, en effet, Russell Wilson a un petit coup de mou, et il n'est pas vraiment aidé en plus par un jeu au sol qui est inexistant de par la cascade de blessures qui touche les Seahawks ces dernières semaines. Il faudra espérer que sur ce match-là, notamment un Chris Carson revienne enfin à 100% de sa blessure au pied. Il me semble qu'à l'heure actuelle, il est encore incertain à l'instant où on se parle. Hein. Donc jeudi, en l'occurrence. c'est sûr que voilà, ce sera forcément un facteur déterminant. Après, franchement, il y a eu beaucoup de points, je le disais, concédés par les Cards. On voit que la défense mise en place par Vance Joseph souffre un petit peu plus désormais aussi par rapport aux blessures, hein, parce qu'il y a forcément le paramètre Chandler Jones à pas oublier. Il y a un Byron Murphy qui était un petit peu touché ces dernières semaines et qui a priori reviendra sur ce match. Mais le match-up avec DK Metcalf va être un petit peu serré, surtout quand on se rappelle du match contre Jalen Ramsey du receveur des Seahawks. Je pense qu'il y aura quand même un sursaut d'orgueil de Seattle, même si Arizona n'a réussi pas trop ces dernières années au Century Link Field. Je pense que Seattle a les moyens de réagir et de s'imposer sur ce match-là.
Je vais y aller aussi avec les Seahawks. Chris Carson est questionable aujourd'hui, en tout cas hier, aux dernières infos qu'on a eues. Donc, on ne sait pas encore s'il sera de retour à ce moment-là. Pete Carroll avait dit qu'il verrait ce jeudi pour prendre la décision. Et les Cardinals ont gagné les deux derniers matchs, en l'occurrence face à Seattle. Donc effectivement.
Ça peut encore être un match à points, hein, parce que je parlais des DB d'Arizona. Ouais, il me semble que Dunbar et Griffin sont encore out sur ce match-là côté Seattle. Donc ça peut permettre à Kyler Murray de s'éclater un peu.
Ouais, les deux sont absents. Alors effectivement, il peut y avoir beaucoup de points. Maintenant, je veux croire que l'expérience et l'expérience du coaching staff aussi des Seahawks peut leur permettre d'éviter une troisième défaite consécutive face à Arizona. En tout cas, on le leur souhaite. Je vais prendre les Seahawks également. Les matchs du dimanche, on commence avec le match Bengals à 2 victoires, 6 défaites et 1 nul face à la Washington Football Team à 2 victoires et 7 défaites. Quelle fait envie cette affiche. Alors, est-ce que c'est le genre de match où on va enfin voir le vrai... Enfin, on va pouvoir profiter d'un Joe Burrow dans un fauteuil et du coup, en se disant il a vraiment quelque chose et ça va être sympa quand il aura une vraie équipe autour de lui?
C'est pas le meilleur match pour être dans un fauteuil en l'occurrence, parce que jouer la D-line, d'ailleurs au passage on aura quand même le numéro 1 contre le numéro 2 de la dernière draft.
C'est vrai.
Ils risquent de se croiser 2-3 fois a priori. Donc non, pour le coup, ouais, c'est pas le meilleur match. C'est sûr, quand tu sors d'une telle débâcle du côté de Pittsburgh, te retrouver contre Washington qui défensivement, en tout cas sur le premier rideau, est capable d'être extrêmement incisif. En plus, face à la O-line des Bengals, forcément c'est pas ce qui rassure le plus. Donc ouais, c'est ça. On a vu que les Bengals avaient réagi ces dernières semaines avec notamment quelques renforts. Il y a cette victoire convaincante contre Tennessee, mais face à des Titans qui arrivent pas à générer beaucoup de pression cette année, je pense quand même que face à Washington, ça peut être un peu plus compliqué. Alex Smith sort d'une bonne semaine contre Détroit.
Oui.
Contre une équipe des Bengals qui, pareil, a du mal à générer du pass rush depuis le début de l'année, j'aurais quand même tendance à aller du côté de Washington pour ce match-là.
Ah ouais, d'accord.
Mais Cincinnati, c'est une équipe qui difficilement, d'une semaine à l'autre, ils vont montrer des visages différents. Donc, ouais. Mais Washington quand même.
Eh ben, moi, je vais quand même prendre les Bengals. À chaque fois, tu me fais un peu douter, ça m'énerve. non, je vais garder les Bengals. De toute façon, maintenant, c'est pas comme si j'avais grand chose à jouer. Atlanta Falcons, donc, qui commence sa fin de saison terrible par les New Orleans Saints. 3 victoires, 6 défaites pour Atlanta. 7 victoires, 2 défaites pour les Saints. En l'occurrence, sans Drew Brees. On a fait semblant de poser la question, est-ce que ce sera Jameis Winston ou Taysom Hill mardi dans le podcast? Ce sera plutôt Jameis Winston, on est d'accord, Grégory?
Oui, oui, enfin, je comprends toujours pas pourquoi on paye un quarterback 7 millions d'euros pour juste le faire courir sur quelques phases de jeu, mais bon, c'est après, c'est la gestion des Saints, hein, je suis pas là pour juger.
Ils se sont pas encore joués cette année. Les Falcons ont quand même gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Alors, historiquement, enfin, sur les derniers matchs, peut-être, mais là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont en faveur de New Orleans, même sans Drew Brees, en l'occurrence, Alvin Kamara, pour commencer par lui.
Oui.
En face, par quoi on peut répondre du côté des Falcons?
Une serviette blanche.
J'avais une sorte de bye week en plus.
Je l'ai dit. C'est très particulier parce que j'en avais parlé l'année dernière au même stade à peu près de la saison. Il y avait une fameuse bye week pour Atlanta. Ils étaient revenus du côté du Superdome pour aller s'imposer dans un match qu'ils avaient dominé de bout en bout. Donc en plus sur un match, il manque quand même le quarterback des Saints. C'est bon. Jameis Winston m'a pas bluffé sur les quelques phases de jeu qu'il a montré lors de son entrée face à. J'ai oublié contre qui il jouait d'ailleurs, face aux Niners. Mais bon, après voilà, je le dis, Sean Payton reste un spécialiste offensif. Je pense qu'il va essayer de minimiser au maximum les possibles erreurs de Winston, surtout vu comment carbure Kamara depuis le début de la saison. Ça va être le principal duel à surveiller. Il va falloir avoir un Deion Jones notamment hyper appliqué. On sait qu'il aime bien généralement les confrontations contre les Saints depuis qu'il est arrivé en NFL, mais là en l'occurrence il va falloir qu'il charbonne. Mais ça me paraît quand même un poil trop court pour réussir à stopper cette équipe des Saints qui en plus défensivement me montre un peu plus de certitude. On a un Marshall Lattimore qui a l'air beaucoup plus appliqué.
Ouais.
Donc en tout cas, ça va nous donner là encore un match-up assez excitant avec Julio Jones. Donc match-up pas sous-estimé, je pense, pour parler sérieusement de la part des Saints. Mais oui, la logique voudrait, surtout après leur coup de force du côté de Tampa et le fait qu'ils aient récupéré la main sur la division, que les Saints s'imposent contre les Falcons.
Et alors, tu parles de la défense, une petite stat pour vous, chers auditeurs, c'est que les Saints sont aujourd'hui l'équipe avec le plus de matchs consécutifs sans coureur adverse à 100 yards. Ils sont à 52 matchs d'affilée sans avoir concédé plus de 100 yards à un coureur adverse.
Bien, parce que Gurley n'en a pas beaucoup cette année.
Voilà, et en fait, ils ont battu les Cowboys qui étaient à 51, et les Cowboys qui, de 72 à 76, n'avaient pas concédé un match à plus de 100 yards à un coureur en face. Et ben voilà.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les Saints ont repris la main sur ce record. Alors, tout le monde a son record en NFL, mais celui-ci, en l'occurrence, il est assez sympa à avoir. Le match suivant, les Steelers à 9 victoires et 0 défaites chez les Jacksonville Jaguars à 1 victoire et 8 défaites. Bon, peut-être pas la peine d'y passer beaucoup de temps. Jake Luton face à Ben Roethlisberger, la défense des Steelers face à la défense des Jaguars. Chase Claypool face à DJ Shark, tiens, peut-être voilà, ou Juju,
c'est
allez même.
Gros duel à distance.
Mais... Ouais, non mais voilà, j'essaie de trouver des trucs sur lesquels les Jaguars ont un peu l'équivalent. Mais en fait, à part DJ Shark et encore, il y a tellement de receveurs du côté des Steelers, c'est un peu réducteur.
Non, mais
de
DJ dire... Shark, j'ai oublié son prénom, Joe Hayden, ça peut être un match-up assez sympa à voir en effet, mais. Ouais, non, après, c'est toujours pareil. Depuis que Jake Luton est lancé, on dit, oh, bah, de toute façon, ils ont leur quarterback backup et ils montrent pas grand chose. ils perdent de rien contre Houston et contre Green Bay, ils ont quand même le drive pour potentiellement les enquiquiner. Donc on a vu que les Steelers étaient pas non plus immunisés contre l'excès de confiance, hein, notamment du côté de Dallas. Donc ouais, non, c'est pas, on sait qu'il y a un petit peu de d'historique, hein, même si bon, c'était très occasionnel entre les Steelers et les Jaguars lors de la très bonne saison de Jacksonville. On sait que ça avait fait monter un petit peu le, comment dire, des tensions entre les deux franchises. Après, ça a l'air quand même d'être un petit peu retombé avec le départ massif de certains joueurs des Jags. Je pense que Pittsburgh a quand même les moyens de s'imposer et de s'avancer encore un peu plus, surtout avec la défaite des Ravens le week-end dernier, vers un titre de division qui lui tend les bras.
Je suis d'accord. Et alors, je repensais, c'est vrai qu'il arrive à Roethlisberger de rater des matchs complètement avec trois interceptions et des trucs comme ça. Sur ce match-là, même si c'est le cas, malheureusement, je pense que les Jaguars sont assez loin du niveau affiché par les Steelers. Donc, je vais quand même y aller avec Pittsburgh. New England Patriots à 4 victoires et 5 défaites chez les Texans de Houston à 2 victoires et 7 défaites. Roméo Crennel, bien sûr, qui retrouve ses anciens copains.
Oui, il y a beaucoup de retrouvailles sur ce match.
Ouais, il y a plein de... C'est vrai que c'est deux équipes qui ont un historique. Mais alors, j'ai du mal à cerner les Patriots de cette année. Là, ils sortent d'une victoire convaincante face à Baltimore. J'ai beaucoup moins de mal à cerner les Houston Texans puisque ils se ratent quasiment toutes les semaines malgré et c'est triste pour lui, un Deshaun Watson qui tente de surnager et qui, en fait, j'ai l'impression même ça ne suffit plus, enfin même ça il n'y arrive plus. Ça me paraît compliqué pour Houston quand même.
C'est ça, ce qui est un peu triste, c'est que les actions d'éclat de Deshaun Watson ces dernières semaines, c'est des actions à la course, quoi. Donc quand on sait le potentiel qu'il avait réussi à atteindre d'un point de vue aérien ces dernières années, c'est bon, ça fait un peu peine à voir en l'occurrence, c'est sûr. Là en plus, face à une équipe des Pats qui, bon, défensivement est beaucoup plus dans les standards, c'est vrai qu'on les voyait un petit peu plus en souffrance, faut dire qu'ils n'étaient pas vraiment aidés par l'attaque, mais là ils sont quand même beaucoup plus dans les standards avec notamment un Jesse Jackson hyper opportuniste. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète pour les Texans, c'est que leur run stop est inefficace depuis le début de la saison, et je pense que New England va pas se gêner pour appuyer là-dessus avec un Damien Harris efficace et un Cam Newton prolifique dans ce secteur-là. Donc c'est compliqué, même si tu le disais, il y a une équipe des Pats qui est capable de perdre à domicile contre Denver, qui est capable d'être à deux doigts de se faire taper par les Jets en prime time, qui bat dans la foulée Baltimore. Bon, c'est une équipe difficile à pronostiquer, mais je le vois quand même gagner dans le Texas.
Je les vois aussi. Tu évoquais JC Jackson. Il est en tête aujourd'hui des intercepteurs de la ligue puisqu'il a 6 interceptions, ce qui fait lui le meilleur à ce jeu-là. Les Eagles à 3 victoires et 5 défaites et un nul face aux Browns à 6 victoires et 3 défaites. On a évoqué rapidement les Browns tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit? Il me semble que tu as dit offensivement, ils étaient pas.
Ouais, c'est moche, quoi. Je pense qu'on l'a tous vu contre Houston, justement. Oui. C'est quand même assez vilain, donc ouais.
Et voilà, là, il y a cette équipe des Eagles qui arrive clopin-clopant depuis le début de la saison à tirer leur épingle du jeu et qui joue la tête de la division, hein, rappelons-le. Les Browns vont plutôt eux essayer d'aller chercher une place en wild card. Sur ce match-là, même s'il y a pas, enfin, c'est pas très convaincant du côté de Cleveland, il y a quand même beaucoup plus de certitude et en l'occurrence beaucoup plus de titulaires présents, donc beaucoup plus de chances de gagner. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça?
Cleveland est forcément favori de ce match de par parce que même si d'un point de vue artistique, bon, en NFL on n'est pas là pour donner des notes artistiques.
Certes.
On peut juger ça comme on veut. Après, j'ai pas dans l'idée que les Eagles soient hyper spectaculaires depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que Cleveland, je me dis toujours en regardant leur match que il y en a un à domicile sur lequel ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Et en plus, ce match-là, vraiment, face à une équipe des Eagles qui se réveille quasiment exclusivement en fin d'année, dans un match où personne les voit gagnants, dans un match où les Browns ont eu leurs infrastructures fermées momentanément, où ils ont des O-line qui sont toujours un peu justement touchés, notamment à l'intérieur de la ligne. Bon, ça m'interroge un peu. Après, oui, la logique voudrait que j'aille du côté de Cleveland, mais je serais vraiment tout sauf étonné que les Eagles aillent s'imposer du côté des Browns. Après, on a vu que le retour de Nick Chubb avait fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien aux joueurs de Kevin Stefanski. Donc, si ça peut leur permettre de monter un peu plus en puissance, notamment offensivement, voilà, j'y vais avec les Browns sur ce match-là.
Petit prono comme ça pour toi. Combien de sacs pour Myles Garrett?
Bah, s'il joue, parce qu'il me semble qu'il est encore incertain à l'heure actuelle, ouais, ça peut aller jusqu'à beaucoup, parce que ouais, les Eagles sont toujours, je crois que c'est 36 sacs depuis le début de la saison. J'ai plus la stat, mais ouais, ça fait plus de 2 sacs par rencontre concédés par Carson Wentz. Oh, il peut aller en chercher au moins 2, hein, a priori.
Ouais, il était questionable mercredi hier, et selon la société de presse, il ne s'est pas entraîné à cause d'une maladie. Alors, on verra ce qu'il en est. Mais en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être physique, donc peut-être qu'il sera revenu.
Oui, on lui souhaite d'être là. Je pense que les Eagles n'espèrent pas, mais on lui souhaite d'être là.
Je pense que Carson Wentz a beaucoup prié pour qu'il ne soit pas là. Les Lions à 4 victoires et 5 défaites face aux Panthers à 3 victoires et 7 défaites. Duel de félins et duel d'équipe qui, pourquoi pas, là sur les derniers matchs, ont l'air de montrer de meilleures choses. En tout cas, les Panthers ont perdu leur 5 matchs d'affilée.
Oui, ils souffrent un peu, les Panthers.
Non, mais oui, mais voilà, il y a quand même le retour de Christian McCaffrey. Bon, alors, en l'occurrence, on ne sait pas pour combien de temps. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il va pouvoir.
Oui, je crois qu'il est très incertain encore sur ce match. Il me semble qu'il n'a pas joué le week-end dernier et qu'il est très incertain encore. Je ne suis même pas sûr que Bridgewater joue
en dit même qu'il est out. Je lis que McCaffrey est out. Bon, et du coup, ça résume vachement la preview de ce match-là. Non, mais voilà, même s'il y avait du mieux du côté des Panthers, la dynamique du côté de Détroit me paraît un peu plus avantageuse. Et dans ces moments-là, j'ai toujours envie de regarder qui est le meilleur quarterback. Matthew Stafford face à Teddy Bridgewater. Bon, le choix pour moi, il est vite fait. Et je sais que tu es dans mon camp sur ce sujet-là.
Oui, bah j'aime bien Bridgewater, mais oui, Stafford quand même. Je préfère un peu plus. Après, non, franchement, la forme est meilleure du côté de Détroit, mais de très très peu, hein, parce que c'est vraiment parce que Carolina souffre notamment d'un point de vue blessure et profondeur. Ils sont quand même souvent dans les matchs, mais malheureusement, ouais, ils ont un petit peu de mal à conclure, puisque c'est quoi le dernier match que j'avais en tête? Le match contre Tampa, ils jouent longtemps les yeux dans les yeux avec les Bucks.
La mi-temps, ils sont quasi
contre une équipe qui était un petit peu vexée de s'être fait botter les fesses le week-end d'avant. Ils ont quand même tenu au moins pendant une mi-temps. Et après, voilà, là, on se rend compte que, ouais, il y a quand même Bridgewater qui est incertain, McCaffrey sur la touche, a priori Dante Jackson qui sera sur la touche aussi, sur le poste de corner, un poste à besoin. On sait que c'est pas l'idéal. Après, du côté de Détroit, je sais pas trop où on en est au niveau de la situation de Kenny Golladay qui a manqué les dernières semaines, mais qui a priori serait sur le chemin du retour. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est un duel hyper équilibré.
Il était limité à l'entraînement mercredi,
Golladay. Ouais, c'est pour ça, franchement. C'est compliqué. Les Panthers me montrent plus de choses, mais j'ai l'impression que d'un point de vue effectif, en tout cas d'un point de vue un petit peu bobo, j'aurais peut-être tendance à y aller vers les Lions, mais il est dur ce match.
Oui, il est dur. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vais prendre les Lions aussi, comme dit sur la dynamique, mais c'est pas là-dessus que je mettrai une pièce, par exemple.
Ouais, les Lions, allez.
Allez, les Lions. Match suivant, les Titans à 6 victoires et 3 défaites face aux Ravens à 6 victoires et 3 défaites. Enfin, un des matchs entre équipes qui s'affrontent. Deux équipes évidemment très fortes au sol. Deux équipes qui sont dans le top 3 des attaques en AFC et qui est surtout le rematch du Divisional Round de l'an dernier que les Titans avaient un peu... Alors, usurper, le mot est fort parce qu'ils l'avaient mérité cette victoire, mais personne ne les voyait gagnants dans ce match-là.
Ils avaient surpris clairement les Ravens qui marchaient sur toute la ligue, oui, c'est sûr.
Et qui couraient littéralement sur toute la ligue. Donc, voilà, est-ce que sur ce match-là, il faut s'attendre à 15 passes maximum de Tannehill et de Lamar Jackson?
Je sais pas, après c'est un match où il peut y avoir des points parce que les deux défenses sont pas épargnées non plus par les blessures. J.D. Van Clowney du côté de Tennessee est toujours très incertain, Adoree Jackson également. Côté Baltimore, on rappelle qu'il y a notamment les blessures de Calais Campbell et de Brandon Williams sur la D-line, ce qui est quand même pas anodin malgré tout. C'est quand même les deux leaders du premier rideau, donc c'est non négligeable. Donc ça peut éventuellement permettre au moins à Baltimore de se relancer offensivement, parce que j'ai pas dans l'idée que Tennessee leur point faible soit en attaque depuis le début de la saison. Ils ont peut-être les moyens de poser des soucis à cette équipe des Ravens, qui malheureusement en termes de défense déshonore pas depuis le début de la saison, mais souffre peut-être également justement cette baisse de régime assez flagrante de l'attaque. Donc j'ai presque envie de te dire, ce sera force contre force selon moi, mais aussi faiblesse contre faiblesse, et que celui qui gagnera le match-up entre l'attaque des Ravens et la défense des Titans aura sans doute un ascendant. Je vois quand même Baltimore gagner ce match-là. puisqu'en l'occurrence, c'est pas beau du côté de Baltimore, mais on arrive quand même à limiter un peu la casse, avec notamment cette victoire à Indianapolis il y a quelques semaines de ça. Du côté de Tennessee, tu vois quand même que ces dernières semaines, c'est beaucoup plus dur. Il y a eu trois revers en très peu de temps, hein, notamment celui du jeudi précédent contre Indianapolis, qui les sort de la tête de la division.
En plus.
Et ouais, là, c'est pas le meilleur moment pour se déplacer du côté de Baltimore, même si les Ravens sont pas dans une forme olympique, c'est un euphémisme de le dire.
Moi, je vais prendre Baltimore aussi. Baltimore, qui est quand même l'équipe qui accorde le moins de points à NFL, hein, 18.3 par match. Donc, c'est quand même une stat à prendre en compte. Même si, voilà, leur défense n'est pas hermétique à 100%, ils encaissent assez peu de points.
Faut voir comment ils arriveront à stopper Derrick Henry, mais voilà.
Dans la zone rouge, c'est là où ça va être intéressant. Ouais, je suis d'accord. Donc, moi, je vais prendre Baltimore aussi, mais. Là où je disais que le match précédent était pas évident à pronostiquer, celui-là non plus, mais celui-là, il est un peu plus sympa quand même. On passe à 22h25, à 22h05 d'abord, le dimanche, le match des Jets à 0 victoire et 9 défaites face aux Chargers à 2 victoires et 7 défaites. Bon, on a évoqué un petit moment ces deux équipes, tiens d'ailleurs, au début du podcast dans le classement de la draft de l'an prochain.
C'est dire comment c'est sexy, ouais.
Oui, ben on fait ce qu'on peut hein, du côté de Los Angeles. En l'occurrence, j'ai du mal à imaginer que avec le matos qu'il y a du côté de Los Angeles, quand bien même il est mal utilisé par Anthony Lynn, ça ne suffise pas pour battre cette équipe. Je ne trouve plus les qualificatifs des Jets.
Écoute, moi c'est ce que je me dis depuis le début de la saison des Chargers. Hein, je me dis avec le matos qu'il y a, etc. Mais bon, les Jets sortent d'une bye week.
Et ils sont passés à 3 points de
un match où ils ont embêté les pattes. Est-ce qu'il n'y a pas une petite prise de conscience en se disant sait-on jamais, voilà, on va essayer de pas passer pour les ploucs de la ligue et essayer de s'en lancer, même si a priori ce sera toujours Joe Flacco en tant que quarterback sur ce match-là.
Oui.
Mais franchement, c'est... je vais te dire Chargers parce que je suis pas fou. Mais je pense qu'Anthony Lynn peut se faire virer après ce match-là s'il trouve le moyen de perdre contre les Jets.
Attends, parce que j'en viens presque à me demander si ce serait pas intéressant de perdre ce match du coup. Oh là là, je sais pas, je suis pas sûr. Non, je pense quand même pas. Mais la dernière fois que les Chargers ont reçu les Jets, il y avait eu 31-0. C'était à San Diego encore à l'époque en faveur des Chargers. Donc voilà.
C'était en noir et blanc, ouais, tout à fait. Ouais. Non, et puis en plus voilà, les Jets qui continuent d'afficher en tout cas leur volonté d'être brillant jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il me semble que Pierre Désir, qui n'était pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais qui en tout cas était leur meilleur intercepteur depuis le début de l'année, s'est fait dégager, il me semble, cette semaine ou en fin de semaine dernière. Donc allons-y, hein, continuons de déplumer un petit peu l'effectif, histoire d'être sûr qu'en fin d'année, on n'est personne, on n'est que des mecs de la practice squad. Ça me paraît un peu compliqué quand tu t'apprêtes à jouer Keenan Allen et Mike Williams, en l'occurrence. Donc ouais, ce serait quand même très étonnant de voir les Chargers s'incliner sur ce match-là.
Très étonnant. Chargers pour moi aussi. Dolphins 6 victoires, 3 défaites face aux Broncos avec 3 victoires et 6 défaites. Tagovailoa qui est en passe de remporter son 4e match consécutif en tant que rookie. Il y a des jolis noms comme Phil Simms notamment qui avait remporté ses 4 premiers matchs comme rookie. Virgil Carter à l'époque à Chicago bien sûr.
On connaît que lui, c'est sûr.
Je ne le connais pas par cœur bien sûr, on me donne ses stats du côté de la NFL.
On a fait une chanson sur lui, non ? Like Virgil, non.
Je vois que t'es en forme, ce jeudi, j'adore ça. Donc Tagovailoa sur ce match-là qui est quand même favori, et surtout la défense des Dolphins qui a moyen de faire passer un sale match à Drew Lock et à son équipe.
Oui, c'est ça. Encore une fois, Denver, c'est un peu l'énergie du désespoir, c'est méchant parce que franchement, je pense qu'il y a des équipes limite mieux qu'elle a c'est que qu'on montre moins. Depuis le début de la saison, donc voilà. Mais ouais, le problème avec cette équipe des Broncos, c'est que ça reste une équipe très jeune et qui montre pas sur une base régulière. Là où Miami, c'est appliqué, en tout cas de ce qu'on en voit ces dernières semaines, c'est appliqué du début à la fin sur toutes les phases de jeu. Donc c'est vrai que sur ce match-là, vu les trajectoires globales, j'aurais tendance, oui, à aller vers Miami. Ça reste un match piégeux, mais voilà, Miami en ayant tapé les Rams, en ayant gagné du côté d'Arizona. J'ai du mal à aller voir se prendre les pieds dans le tapis du côté de Denver. Donc, toujours en course, Miami, pour éventuellement arracher la FCS, hein, parce que et Buffalo a pris un ascendant, mais vu la forme actuelle, va y avoir un petit Buffalo Miami qui va coûter cher en fin d'année à ce rythme-là.
Exactement. Et alors moi, ce qui me rassure du côté de Miami en plus sur ce match, c'est que mon gars sûr Jason Sanders, quand bien même il a raté un field goal la semaine dernière, dans l'air de Mile High, réussira tous ses coups de pied, bien sûr, même les très lointains. Donc ça devrait avantager les deux.
S'il fait 0 sur 4, tu vas le payer.
Alors là, s'il fait 0 sur 4, je...
Il va y avoir un contrat sur ta tête de la
part. Ouais, je ferai mieux qu'amende honorable, je ferai un geste en faveur des fans des Dolphins, parce que c'est vrai que ce serait terrible. Dimanche à 22h25, les Cowboys à 2 victoires et 7 défaites chez les Vikings à 4 victoires, 5 défaites. On parlait d'équipes qui ont une meilleure dynamique depuis quelques semaines. En l'occurrence, celle des Vikings est assez impressionnante. Alors, on nous dit qu'Andy Dalton serait de retour du côté de Dallas, qui sort d'une bye week après avoir perdu face à Pittsburgh, mais en surprenant une bonne partie du match. Malgré ça, j'ai encore du mal à voir cette équipe de Dallas se relever de l'espèce d'effondrement mental qu'il y a eu depuis la blessure de Dak Prescott. Et à l'inverse, je vois mieux les Vikings continuer sur leur bonne lancée, surtout Dalvin Cook.
Oui, non, t'as tout dit. Je pense que je vais pas passer 10 minutes sur ce match-là. Oui, non, je suis globalement plus optimiste pour les Vikings. Il y a une équipe qui a été bien maîtrisée, bien recentrée, en tout cas, pour se mettre dans les meilleures dispositions, alors qu'on pouvait penser que ce serait des gros candidats pour le top 5 de la draft. Et en face, il y a une équipe qui est clairement démobilisée et qui défensivement aura du mal à couvrir efficacement et contre la course et contre la passe. Donc, j'aurais tendance à aller vers les Vikings aussi.
L'autre match de 22h25, c'était les Green Bay Packers à 7 victoires et 2 défaites chez les Colts à 6 victoires, 3 défaites. On en a parlé tout à l'heure. Il me semble que tu prends les Colts et je prends les Packers. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football entre les Kansas City Chiefs à 8 victoires et 1 défaite face aux Las Vegas Raiders à 6 victoires et 3 défaites. Ils se sont déjà joués cette année. La seule défaite, je vais y arriver, hein, des Chiefs, en l'occurrence, c'était face aux Raiders. C'était leur première défaite en 18 matchs, je crois, si tu prenais les playoffs et le Super Bowl.
Ils avaient bien terminé l'année dernière.
Ouais, donc voilà, c'était un coup d'arrêt qui, je pense, a un peu embêté l'ego des Chiefs. Est-ce que les Raiders sont capables de réitérer l'exploit?
Ah oui, bien sûr. En tout cas, de ce qu'on voit, là aussi, c'est bien coaché depuis le début de la saison. Et puis, c'est pas la première fois que je m'en fais l'écho, mais c'est sûr que cette équipe des Chiefs me rassure pas de bout en bout. Ils ont notamment un run stop que je trouve très très en difficulté au fur et à mesure des semaines. Et là, en l'occurrence,
face à Josh Jacobs, c'est pas le bon moment.
Voilà, il y a quand même largement de quoi produire du côté de la franchise du Nevada. Donc, c'est sûr que là, en l'occurrence. Je suis un peu plus inquiet défensivement du côté de Las Vegas parce que forcément, il n'y a pas de pass rush et il n'y a pas non plus un backfield qui m'éblouit au moment de défendre sur Patrick Mahomes.
Oh, Max Crosby fait pas une mauvaise saison.
Oui, mais il y a que lui. Et en plus, bon, alors, malheureusement pour lui, en plus, bon, Clelin Ferrell produit pas depuis le début de la saison. Il me semble qu'il est sur la liste Covid depuis peu. Donc, voilà, en plus, ça aide pas. Mais, je pense qu'il y aura peut-être pas autant de points qu'au match aller. C'est peut-être deux équipes qui vont se craindre un petit peu plus.
Peut-être.
On dira. Enfin, c'est pas étonnant du côté des Raiders, mais ce sera peut-être un petit peu plus du côté des Chiefs. Mais je pense qu'il y aura quand même moyen qu'il y ait quelques touchdowns inscrits sur ce match-là, parce qu'encore une fois, les deux défenses sont pas parfaites de bout en bout. Et il y a en plus des attaques capables de carburer et d'avoir vraiment des momentum susceptibles d'être conclus. Donc je vois quand même Kansas City réagir. Ils sortent d'une bye week, en plus, si j'ai bonne mémoire.
Ils sortent d'une bye week et ils avaient gagné de 2 points face à Carolina.
Voilà.
En semaine 9.
Voilà. Il y a eu ce match pour les refocaliser. Le match contre Las Vegas, c'est clairement, dans mon souvenir, il me semble qu'il y a un début de deuxième mi-temps qui est assez catastrophique de la part des joueurs d'Andy Reid.
Il doit pas y avoir un point en troisième quart-temps, je crois, pour eux.
Ouais, donc, voilà, c'est vraiment, je les vois vraiment réagir sur ce match-là en prime time. Face à un adversaire de division qui peuvent écarter éventuellement de la contention, si je peux prendre une expression un petit peu anglicisée, s'ils qui peuvent les dégager de la course à la division AFC West. Je pense qu'ils vont pas s'en priver, donc j'y vais avec Kansas City à titre personnel.
Ce sera Kansas City pour moi aussi. Andy Reid qui a un bilan de 13 victoires et 5 défaites face aux Raiders, alors que John Gruden a aussi un bilan positif, 8 victoires, 7 défaites face aux Raiders. Évidemment, c'est toute équipe coachée confondue. Hein. Il y a peut-être des victoires face aux Chiefs, avec les Eagles. J'ai dit face aux...
T'as dit face aux Raiders.
Ah bon, bah c'est face aux... Oui, oui, c'est face aux Chiefs, bien sûr. Et enfin, le Monday Night Football entre les Rams à 6 victoires et 3 défaites et les Buccaneers à 7 victoires et 3 défaites. Est-ce que ce serait pas un gros match défensif, ça, sur le papier, Greg?
En tout cas, c'est pas ce qu'on aurait cru au début de la saison. Parce
c'est ça.
Oui, on aurait pu s'attendre à 30 points de chaque côté, vu les signatures sexy des Bucks et vu la mouvance habituelle des Rams depuis l'arrivée de McVay. Oui, c'est sûr que ça a l'air de resserrer un petit peu plus. En l'occurrence, il va vraiment y avoir des duels, notamment sur la couverture, qui vont être assez sympas à suivre de part et d'autre, notamment le duel entre Mike Evans et Jalen Ramsey, hein, puisqu'on sait qu'en plus Evans sort d'une prestation un peu compliquée contre Marshawn Lattimore. Alors, c'était pas le week-end dernier, mais en tout cas, je pense que ça l'a un petit peu atteint. Donc là, face à un autre top cornerback de bon calibre, je pense qu'il aura à cœur de se reprendre. Voilà. Après, je pense que Tampa m'apparaît un peu plus complet. À la maison, en plus, je les vois quand même être capables, de par leur énorme run stop, de vraiment stopper le backfield de comité des Californiens. Et de mettre cette fameuse pression que n'aime pas beaucoup Jared Goff. Donc, ouais, Tampa pour moi, en l'occurrence, sur ce match.
Tampa pour moi aussi. Petite stat, hein, vous aimez bien les petites stats de temps en temps. Avec deux passes de touchdown, Tom Brady rejoindrait Peyton Manning comme le seul joueur de l'histoire de la NFL avec 25 passes de touchdown en 15 saisons. Voilà, c'est quand même...
Oui, mais on est en joué 10 ans de plus. Je taquine, bien
entendu. Pas complètement, mais pas loin. Donc, ouais, non, mais voilà.
Que les deux soient dans le même wagon, c'est pas.
Ce n'est pas déshonorant, bien au contraire.
Voilà, c'est même plutôt logique, quoi.
Oui. Je vais prendre les Bucks aussi, mais attention, on sait que Tom Brady, il n'aime pas non plus jouer sous la pression. Donc, attention. Voilà pour tous les pronos de la semaine 11. On passe tout de suite à vos questions. Et je manque à mon devoir le plus élémentaire de rappeler que Buffalo, Chicago, New York, en l'occurrence les Giants, et San Francisco sont en bye week. Vos questions, chers auditeurs et auditrices. La première, Fidel Gastro, salut la team. Comme Nick Foles est en bonne voie pour devenir le nouveau Joe Flacco, jouons à un petit jeu. On échange Foles contre Flacco, donc Foles aux Jets et Flacco aux Bears, et on fait s'affronter les deux teams. Que donnerait ce match? Au secours.
Bah, à peu près la même chose, hein, je pense, hein, parce que malheureusement Nick Foles n'a pas vraiment tout révolutionné du côté de Chicago. Même si je le disais, il y a un jeu au sol qui est vraiment insignifiant dans l'Illinois, mais bon, ça justifie pas. Je pense qu'en tout cas, on aurait pu espérer mieux, même si ça reste un joueur qui est, même si ça reste deux joueurs de moment. En l'occurrence, puisque c'est deux vainqueurs de Super Bowl, c'est deux MVP de Super Bowl, mais c'est peut-être les deux quarterbacks les plus irréguliers qui ont gagné le Super Bowl dans l'histoire.
Oh,
l'histoire récente, j'entends.
Il y a Eli Manning aussi, quand même.
C'est différent, c'est différent.
Oui, il est irrégulier différemment. Alexandre 15 qui nous dit « Salut l'équipe TDA, nous avons déjà passé la mi-saison, les stades continuent d'être vides ou d'avoir quelques spectateurs. On va tout droit vers un Super Bowl à huis clos. Est-ce que vous pensez que la NFL va accepter de continuer dans ces conditions vu le manque à gagner ?» Je pense que la NFL, c'est pire si ça joue pas.
Bah, c'est ça. Après, accepter ces conditions, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Hein. Là, on sait qu'il y a la fameuse histoire des vaccins qui commence à sortir, notamment de laboratoires américains. Peut-être qu'ils vont tout faire pour que ça sorte plus vite que prévu et que en effet il y ait une guérison très rapide qui touche le pays de l'oncle Sam et qui puisse au moins accueillir un minimum d'influence. Après, on voit qu'il y a plein de franchises en NFL qui remplissent à des degrés plus ou moins importants leur enceinte.
C'est toujours la même chose.
Huit clos, je suis pas sûr.
Non, je pense pas.
Maintenant, il y a une telle complexité en termes d'organisation qu'il faudrait quand même que, voilà, parce que C'est pas la même chose d'encadrer des gens qui viennent plus ou moins du coin où tu joues et des gens qui viennent du quatre coins des États-Unis, mais, quoi.
Alors, surtout dans la question, est-ce qu'il y a un manque à gagner? Encore une fois, je pense que c'est pire s'il n'y a pas de match télédiffusé, parce que c'est là
où vient la. Après, il y aura toujours les sponsors, Faut pas se leurrer, va beaucoup surfer sur la pub, de toute façon, etc. Donc, les revenus télé restent tels pour un événement comme le Super Bowl. Que public ou pas public,
ils s'en sortiront. C'est sûr, ce sera une moins bonne année, mais ils s'en sortiront.
Voilà, c'est sûr que par exemple, puisque on prend le spectateur lambda, si je peux parler comme ça, c'est sûr que par exemple un show de mi-temps avec un public inexistant ou en tout cas réduit,
c'est vrai qu'il y a ça.
La même chose. Après, est-ce que tu t'attends quand t'as un artiste comme The Weeknd à avoir un show à la Bruno Mars? Je suis pas persuadé, mais. Encore une fois, accepter les conditions, c'est oui, ils les accepteront bon gré mal gré, après faut trouver toujours des solutions plus ou moins intermédiaires, comme tu le disais, pour pouvoir contenter un minimum de gens. Et en effet, ce sera toujours mieux que pas de match du tout et pas de saison encore plus compliquée que celle qu'on a connue, parce que malgré tout, malgré la situation sanitaire qui est celle qu'elle est toujours aujourd'hui, on passe quand même beaucoup entre les mailles du filet.
Il y a eu très peu de matchs décalés. Il y a eu un moment une petite crise au niveau de la semaine 5 et puis tout s'est un peu décalé. Donc maintenant, ça rentre dans le rang. Écoutez, tant mieux pour nous.
Après, est-ce que tout est clean? Je sais pas ce que je dis, mais voilà.
Ça, enfin, on a quand même
l'avantage de pas être trop pénalisé d'un point de vue purement sportif.
On ne peut pas le savoir en l'occurrence. Jeff DeWan, question. Salut la team. Double question sur les Hail Mary. Quelle est la Hail Mary la plus importante de l'histoire? Est-ce que c'est Green Bay face à Arizona en playoff il y a 5 ans? Et enfin, si vous êtes mené 2 points comme les Panthers face aux Chiefs en week 9, que tentez-vous? Un field goal de plus de 60 yards ou une Hail Mary? Moi, je tente toujours la Hail Mary. Moi, je suis un joueur de ouf.
Tout dépend de ton kicker. Après, les kickers qui réussissent de plus de 60 yards, même s'il y en a qui commencent à arriver, c'est quand même. Ça court pas les rues non plus. Donc, j'aurais quand même tendance à tenter Hail Mary. Mais bon, c'est pas. Tout dépend de qui t'as à ta disposition.
La plus importante de l'histoire pour toi? Green Bay, Arizona, il y a 5 ans, toujours d'ailleurs, je l'ai évoqué mardi, au stade de Phoenix en plus.
J'ai pas tous les souvenirs en tête, mais non. Si on prend juste la NFL, sûrement Aaron Rodgers du côté d'Arizona. Ouais.
Si on prend juste la NFL, pardon, oui, évidemment qu'on ne parle pas d'NCA dans ce podcast.
Écoute, parce que sinon, Cordell Stewart contre Michigan, ça reste historique.
Je ne sais pas qui c'est.
Qui est Cordell Stewart?
Non.
Un ancien quarterback de Pittsburgh, Raoul quand même. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
Je ne sais pas qui c'est. Question de Dolphin. Bonjour l'équipe. Voyez-vous une équipe avec un bilan négatif actuellement capable de faire une série de victoires et accrocher les playoffs? Question Minnesota, New England, évidemment hors NFC Est. Hein.
Oui. Il veut nous demander s'ils ont un bilan positif à la fin de la saison ou s'ils peuvent juste se battre pour les playoffs. Parce que
juste se battre pour les playoffs.
Exclu de facto la NFC Est. Mais,
pour répondre à la question, Minnesota me paraît quand même les mieux lancés.
Surtout qu'ils vont rejouer Chicago à domicile. Là, ils jouent Dallas, qui peut déjà leur permettre d'avoir un bilan égal. Ils vont jouer Carolina à domicile avec la situation qui est celle des Panthers dont on parlait tout à l'heure. Si on exclut, comme tu disais, la NFC Est, New England, Minnesota, ça me paraît pas mal. New England, c'est toujours dépendant de l'attaque, hein, mais Minnesota, ça a l'air déjà un peu plus complet de ce qu'on envoie ces dernières semaines, et avec un calendrier qui peut leur permettre en effet de se tirer la bourre jusqu'au bout.
Les autres équipes en négatif, il y a Détroit à 4-5, mais j'y crois peu. San Francisco à 4-6, c'est très difficile dans leur division, je pense.
San Francisco, c'est une équipe qui peut être chiante d'une semaine à l'autre.
Mais dans leur division, aujourd'hui, tout le monde va peut-être un peu se tirer dans les pattes, donc peut-être que ça peut finir équilibré.
C'est bien coaché. Après, le problème, c'est ça, c'est que c'est tellement une hécatombe d'une semaine à l'autre que, et puis, une hécatombe d'un point de vue blessure et d'un point de vue Covid. Là, franchement, ils auront eu la totale cette année, donc s'ils arrivent à récupérer un minimum de force, oui, ils peuvent toujours éventuellement jouer le poil à gratter et finir avec un bilan positif, mais on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit-là à l'heure actuelle, je pense.
La gueule de bois du Super Bowl, pour eux, c'est pas une légende, hein. C'est vraiment fou. Petite question. Pourquoi je n'ai pas le nom de celui qui me pose la question? Je l'ai mal. Désolé pour l'auditeur qui a posé la question. Mais en l'occurrence, la question c'était à la fin du podcast, quelle est la phrase? On finit en quoi? On finit en requin. C'était le gage, c'était mon gage d'ailleurs, je crois, de finir en requin comme le requin gauche, bien sûr, de Katy Perry au show de la mi-temps au Super Bowl. Est-ce qu'on a prévu de refaire le générique de fin quand tous les joueurs cités seront à la retraite? C'est vrai qu'il n'y a plus Marshawn Lynch. Écoutez, on demandera à Kidman. On espère qu'ils seront toujours
au. La question était de bébé ou oursin au passage.
Ah, bravo, merci beaucoup. Et alors, question de Hugo Le Saint. Suite à la réception de Hopkins, qui restera sûrement dans les annales, quelle est l'action que vous retiendrez le plus depuis le début de la saison? C'est vrai que celle-là, difficile de faire l'impasse. Après les autres,
j'ai l'impression que plus les années passent, plus j'ai des failles de mémoire, ça m'inquiète beaucoup. Hein,
parce que notre disque dur de NFL n'est pas extensible à volonté, quoi. Au bout d'un moment, il y a trop de trucs qui rentrent.
Ouais, non. Pourtant, je suis pas si vieux que ça, hein, mais.
Ouais, mais tu as beaucoup de connaissances de la NFL d'avant, alors que moi, j'ai encore plein d'espace libre.
Bah non, alors, non, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut retenir juste des actions depuis le début de la saison, et même ça, ouais, c'est un peu. Mais ouais, non, en tout cas, il n'y a pas grand chose qui touche l'action d'Hopkins.
Ah, après, moi, il y aura quand même le truc de revoir Alex Smith sur le terrain, je pense. Moi, ça m'a un peu.
Bah, oui, marqué, oui. Bah, après, si on prend une action mémorable, malheureusement, je suis obligé, hein, ça me fait mal au cul, mais le. L'onside kick de Dallas.
Ouais, malheureusement, je pensais à
malheureusement,
ça aussi.
Malheureusement, pour moi, c'est tristement mémorable. Mais ouais, oui, je pense que ça a été une des actions les plus marquantes cette année, même si malheureusement, c'est au détriment de mon équipe de cœur.
Alors, ça vaut pas celle d'Hopkins, mais la dernière action des Bills face aux Rams, quand même, il y a. Dans un match où ça s'est un peu battu jusqu'au bout. Je ne dis pas que je le retiendrai, mais là, aujourd'hui, ça me revient. Et alors, je voulais surtout poser la question parce qu'il y a un petit PS. D'ailleurs, Raphaël, on ne dit pas DeAndrew, mais DeAndre Hopkins. Et effectivement, à chaque fois, ça me fatiguait dans le podcast, mais mardi, j'ai oublié de le dire. Raphaël, qui nous écoute, s'en souviendra, je l'espère. Et enfin, la dernière question de The Manant, avec la Hello la team. Avec la bonne réputation de la No Fun League, quelle est pour vous la règle la moins fun? Pénalité sur les célébrations excessives, chaussettes avec élastique fatigué. Merci à toute l'équipe. Il y a plus trop les pénalités sur les célébrations, j'ai l'impression, ces dernières semaines.
Non, justement, on avait laissé un petit peu plus de latitude. Parce que, bon, des fois, c'est vrai que ça devenait un peu ridicule. Des joueurs qui lèvent les bras, on fait voilà, attention.
Maintenant, on met des amendes après coup quand ils dunkent sur le poteau. Je trouve ça encore plus fourbe, en fait.
La règle la moins fun, c'est pas une règle stricto sensu, mais moi j'avoue que je commence à être un peu fatigué par certains roughing the passer que je trouve extrêmement sévères. Je veux bien qu'on en demande beaucoup et qu'on cherche à protéger les quarterbacks, ça me paraît être la moindre des choses, mais des fois ce serait bien, et ça malheureusement on a toujours du mal à le faire, hein. Ça existe depuis la nuit des temps en termes juridiques, mais séparer la lettre et l'esprit, c'est toujours quelque chose de très compliqué.
Oui, bah dans tous les sports.
Et ce serait bien de réussir à se dire, est-ce qu'il y avait vraiment possibilité dans ce cas figure-là d'éviter le roughing the passer, ou est-ce qu'il avait un minimum de temps pour le faire? Et des fois, bon, je veux bien qu'on cherche à avoir des matchs avec beaucoup de points et tout, mais bon, c'est un peu, ça me paraît des fois un peu trop strict. Et voilà, c'est pas. Mais encore une fois, la règle pourrait permettre que ce soit moins, pourrait laisser libre cours à l'interprétation, mais bon, malheureusement, l'interprétation est pas forcément toujours optimale, je trouve.
Surtout quand t'as autant d'arbitres différents, je pense que c'est pas évident à appliquer comme ça.
Mais après, je suis pas sûr qu'ils regardent tous exactement ce secteur-là du terrain, mais
Peut-être pas.
En l'occurrence, ouais, visiblement, ceux qui le regardent, ils sont un peu rigoristes, malgré tout.
C'est comme ça que se termine le podcast 379. Merci de nous avoir suivis. Pour retrouver le site sur les réseaux sociaux, on est sur TD Actu, sur Twitter et Facebook, Touchdown Actu en entier sur Instagram. Pour le site avec les news, les résumés, les chroniques et le podcast, c'est tdactu.com. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui y sont déjà et on les en remercie. Il y a plein de contreparties super comme des magnets, des porte-clés et des dessous de verre. Donc, hop, c'est l'occasion. On a refait récemment là. Vous pouvez choisir votre contrepartie. Donc, n'hésitez plus à y aller. Jeudi prochain, c'est Thanksgiving le 26 novembre. On vous prépare une petite surprise, donc restez à l'affût des news sur le site. Merci Greg.
Toujours un plaisir. Juste si tu me permets également, parce que j'en ai pas parlé sur la partie draft, mais petite surprise également qui attend les auditeurs début décembre.
Je savais pas si j'avais le droit d'en parler.
Lié justement à la draft. Deux surprises en l'occurrence.
Oh là là.
Une surprise live et une surprise un peu plus constante. J'en dirai sûrement plus dans les jours à venir, mais voilà, petit teasing en l'occurrence.
Ouais, ça a l'air très quali comme tout ce qu'on fait, bien sûr, à chaque fois. Il me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente semaine 11 de NFL à toutes et à tous. Votre prochain rendez-vous, bien sûr, c'est dimanche à 18h dans le fauteuil avec Alain Mattei. Très bonne fin de semaine et des bisous. Ciao! Les meilleures analyses.
jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.